Tous les dimanches, 13h-14h sur Europe 1.
Pourquoi docteur ?
Jean-François Lemoine.
Bonjour, nous sommes en direct du Salon de l'Agriculture sur le stand des industries laitières qui accueille cette année encore les animateurs d'Europe 1. Nous avons choisi de ne pas aborder les questions de diététique et de nutrition pour laisser ceux qui nous écoutent sur place à avoir le plaisir de faire sans arrière-pensée des accès bien agréables. Alors au programme aujourd'hui, l'ostéopathie. Mon coming out vers les autres médecines se poursuit avec bonheur. Vous avez plébiscité l'émission sur l'homéopathie. Je commencerai donc celle d'aujourd'hui comme la précédente, en avouant que j'ai plutôt passé une grande partie de ma carrière de journaliste médecin en n'étant pas particulièrement tendre avec les ostéopathes. Mais c'est vrai que pendant mes études avant, on ne m'avait rien appris sur l'ostéopathie. Là encore, ce sont vous, fidèles auditeurs, qui m'ont incité à un peu moins d'étroitesse d'esprit. Donc pas de procès à charge, mais une heure pour expliquer et comprendre. Avec trois invités. Le docteur Marc Bayarja, qui est médecin ostéopathe à Paris. Je crois que c'est la première fois de sa vie qu'il doit être applaudi, hein, parce que dans son cabinet, on ne l'applaudit pas. Jean-François Perrault est kinésithérapeute, ostéopathe à Neuilly. Et enfin, quand même, je suis provincial et on est au Salon de l'Agriculture, il nous fallait un provincial, qui est Philippe Sterlingot, qui est ostéopathe à Nantes. Alors, vous aurez remarqué une chose, c'est qu'il y a un médecin, un kiné et un non-professionnel de santé. Ils font le même métier, ça peut surprendre. C'est une des caractéristiques de l'ostéopathie qui n'a pas aidé à la clarté. Mais vous l'entendrez, ils sont réunis dans ce studio pour sans querelle de chapelle, tout nous dire. Bonjour messieurs, alors c'est l'ostéopathie dans sa grande entente qui réunit aujourd'hui docteur Marc Bayarja.
Tout à fait, nous avons réussi récemment à faire sortir des décrets qui permettent que les trois professions exercent l'ostéopathie d'une façon équilibrée.
Philippe Sterlingot, donc pas de bagarre entre les médecins et les non-médecins ou les non-professionnels de santé?
Oh non, avec les médecins, ça fait très longtemps que nous travaillons pour faire émerger une ostéopathie de qualité, donc tout va bien.
Bon, on a l'impression que ça a été un monde de bisounours, ce qui n'est pas tout à fait vrai, mais aujourd'hui, ce qui est bien, c'est qu'on a des gens qui s'entendent et c'est important pour être clair sur l'ostéopathie. Vous définissez l'ostéopathie comment, Jean-François Perrault?
Eh bien, l'ostéopathie, c'est en fait un principe de globalité, d'harmonisation et d'équilibre de l'organisme.
Alors attendez, moi je veux bien, pour moi c'est pas forcément une définition, globalité, harmonisation, tous les médecins vous diront qu'ils font un peu la même chose. Est-ce qu'on peut dire, Marc Bayarja, que c'est d'abord avant tout une médecine qui manipule les gens, qui travaille avec les mains?
Tout à fait, nous travaillons avec les mains et nous cherchons à rendre de la mobilité au corps, quel que soit le niveau où nous rendons cette mobilité.
Alors je suppose que les gens qui nous écoutent se disent, oui mais alors c'est quoi la différence? On va revenir avec vous, Jean-François Perrault. C'est quoi la différence entre un ostéopathe et par exemple un éthiopathe?
Bien, un ostéopathe va traiter l'ensemble du corps avec les mains.
Oui.
Et l'éthiopathe va aussi traiter l'ensemble du corps avec les mains, sauf que bon, il va peut-être plus s'attacher à des différences, soit viscérales, soit rachidiennes. La seule chose, c'est qu'actuellement, l'ostéopathie est reconnue en France et l'éthiopathie n'est pas reconnue.
Mais ça, c'est quand même un point important, Monsieur Sterlingot.
Oui, je crois que l'ostéopathie, il faut la définir simplement. Elle est complexe, mais on peut la définir simplement. En fait, un ostéopathe, il fait quoi? Il travaille que avec ses mains, ça a été dit. Il travaille avec ses mains pour à la fois identifier et à la fois corriger des régions du corps humain qui n'ont pas une mobilité ou une élasticité satisfaisante.
Mais le chiropracteur fait pas la même chose?
Oui, mais attendez, j'ai pas fini. Et la troisième caractéristique, et ce qui rend vraiment spécifique l'ostéopathie, c'est que l'ostéopathe, il travaille toujours dans l'objectif de corriger une douleur ou un mal-être dans une globalité. C'est-à-dire que si vous allez voir l'ostéopathe avec mal dans le bas du dos, il pourra s'intéresser à votre cheville, à vos cervicales, à votre foie, à votre thorax, etc. Et c'est ça qui fait vraiment la différence de l'ostéopathie par rapport à d'autres disciplines.
On disait autrefois que vous disiez, vous les ostéopathes, que le corps avait une capacité à s'auto-guérir. Ça reste un de vos principes ou pas?
Oui, mais je crois que c'est un principe universel. Tout le monde sait que le corps a une capacité à s'auto-réguler. Heureusement, d'ailleurs.
C'est pas mal de vous dire. Alors, je me demande, Marc Bayarja, pourquoi vous avez fait autant d'études pour faire de la médecine avec vos mains? Vous ne faites pas travailler la tête?
Tout à fait. En fait, les médecins restent médecins.
Et même tout le monde. Je suppose que les ostéopathes non-médecins aussi. Il y a une réflexion quand même. Ce n'est pas uniquement de dire « je travaille avec mes mains ».
Les ostéopathes non-médecins ont la même réflexion ostéopathique que les ostéopathes médecins. Mais l'ostéopathe médecin doit garder sa réflexion médicale et sa réflexion de médecin. Il doit donc poser des diagnostics médicaux à côté des diagnostics ostéopathiques.
Alors, si j'osais un sacrilège, quand j'étais jeune, dans mon village, il y avait des rebouteux. je vois que tout le monde, vous ne voyez pas nos auditeurs, mais tout le monde hoche la tête en disant des rebouteux. Est-ce que vous êtes les rebouteux des temps modernes, Philippe Starlingot, puisque vous n'avez pas fait d'études de médecine et que vous êtes un ostéopathe pur?
Oui, je suis pas rebouteux, effectivement. Non, des rebouteux, il y a toujours eu, effectivement, dans les campagnes et dans les villes. Certains excellents, d'autres un peu plus dangereux. Dire que l'ostéopathie, c'est le rebouteux moderne, c'est un peu abusif. Par contre, ce qui est vrai, c'est qu'il y a une tradition des manipulations qui a été reprise par les ostéopathes et qui a été, conceptualisée, comprise sur des bases anatomiques et physiologiques.
Docteur Barrière-Jean ?
Je dirais que le rebouteux, il est unique. Enfin, chaque rebouteux est unique, alors que l'ostéopathie, elle est transmise. Et ça, c'est fondamental.
Vous prenez en compte tout le corps, mais c'est vraiment donc que ça veut dire que tout ostéopathe fait un rapide examen ou un interrogatoire de celui qui va rentrer?
Il y a un interrogatoire ostéopathique et il y a un examen ostéopathique qui est global, effectivement.
On dit que tout est relié dans le corps. C'est des notions qu'en médecine on apprend, mais qu'on n'utilise pas forcément. C'est pas facile pour un médecin de différencier les zones comme vous le faites.
Bien sûr, mais il suffit de prendre le système nerveux central, donc la moelle épinière, on voit bien que ça s'étend très 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 loin, et quand on touche le cervical, on a une influence plus bas, on a des plexus, etc.
Voilà. Ça date de quand l'ostéopathie? Qui est-ce qui peut répondre à cette question-là? Vous, Jean-François Perrault?
Écoutez, l'ostéopathie est née aux États-Unis en fin du 19e siècle. Et a évolué progressivement. Après, elle s'est diffusée en Europe par l'Angleterre dans les années 20 et a réussi à prendre ses lettres de noblesse, on va dire, dans les années 60 en France, avec des difficultés ensuite. Et grâce à cette action commune, on a réussi notre connaissance pour l'ostéopathie moderne.
C'est quand
moderne.
Même très récent.
Ah, tout à fait.
Comment ça se fait qu'on ne l'apprend pas pendant les études de médecine, docteur Barrière-Jean? Ça vous choque?
Ça me choque un peu, effectivement.
Ça me choque beaucoup. Je serais ostéopathe. Ça me choquerait qu'au moins les médecins, on leur apprenne un peu quelque chose.
Je
voulais bien tendre avec vos compères.
Je voulais être gentil, mais effectivement, l'ostéopathie, c'est la clinique, et il est très dommage.
Alors attendez, ce qu'on appelle la clinique, c'est le fait d'observer les gens. Ils ont leur langage, les médecins.
C'est effectivement d'observer
les
gens.
Sinon, on va penser que vous allez toujours envoyer tout le monde dans les cliniques.
De les examiner, puisque l'ostéopathie est une médecine manuelle. Les ostéopathes examinent leurs patients. Et je pense que ça peut apporter beaucoup aux médecins que d'examiner très correctement leurs patients.
C'est pourquoi, docteur, nous sommes au Salon de l'Agriculture. Je suis certain que vous vous demandez comment se passe une séance chez un ostéopathe.
Europe 1, pourquoi, docteur ? Europe 1,
pourquoi, docteur ?
Jean-François Lemoine.
Nous sommes sur le stand des industries laitières au Salon de l'Agriculture à Paris. Nos invités sont le docteur Marc Barrière-Jean, qui est médecin ostéopathe à Paris, Jean-François Perrault, kinésithérapeute ostéopathe à Neuilly, et enfin Philippe Starlingot, ostéopathe à Nantes. Alors, comment se passe une séance d'ostéopathie? Je vais vous poser une question naïve, à vous, monsieur Philippe Starlingot. Est-ce qu'il faut un don naturel pour être ostéopathe?
Non. Il ne faut pas de dons naturels, il faut des solides études d'ostéopathie qui permettent d'apprendre l'anatomie, la physiologie, d'apprendre la pratique des outils de l'ostéopathie, les manipulations et mobilisations. Et puis il faut beaucoup d'entraînement, c'est tout.
Jean-François Perrault, vous ne ressentez pas des choses, vous les ostéopathes, que ne ressentent pas les autres gens qui manipulent?
Non, pas du tout. En fin de compte, c'est par le travail, l'expérience. En fait, en affinant les capteurs sensoriels des mains, on arrive à ressentir très finement ce qui se passe dans le corps.
Bon, on verra tout à l'heure comment on devient ostéopathe, hein, parce que moi, j'aimerais bien savoir comment je peux activer les capteurs sensoriels que j'ai au bout des doigts. Docteur Marc Barrière-Jean, c'est un métier physique, être ostéopathe?
Les techniques sont nombreuses, donc ça peut être plus ou moins physique. Il y a des techniques qui sont très physiques, d'autres qui le sont beaucoup moins et beaucoup plus tranquilles.
Alors, est-ce qu'il y a beaucoup de femmes dans votre profession, Philippe Starlingot?
Aujourd'hui, en fait, il y a à peu près 40% de femmes, mais je pense que dans 5 à 10 ans, on sera à parité, puisque la profession se féminise, comme toutes les professions de santé.
Comme chez les médecins. Mais alors, à ce moment-là, vous, Jean-François Perrault, vous êtes kinésithérapeute. D'ailleurs, il y a beaucoup de femmes qui sont kinésithérapeutes.
Oui, tout à fait.
Est-ce que la manipulation n'est pas à un moment trop difficile? Donc, ça reste quand même quelque chose de simple.
Bien, on a une image de la manipulation toujours par rapport à des sportifs de haut niveau qui est très physique, mais il n'y a pas que ce genre de manipulation. On peut faire des manipulations beaucoup plus douces et qui sont adaptées en fonction de son gabarit.
Alors je vous poserai la question tout à l'heure parce que nous sommes au Salon de l'Agriculture et vous savez qu'il y a une ostéopathie pour les vaches. Alors je suppose que pour manipuler une vache, il faut quand même avoir un certain gabarit. Je dirais que moi je me vois bien en train de manipuler une vache, mais pas forcément d'autres. Vous me dites pas le contraire?
Non, parce qu'en fin de compte, c'est un petit peu comme la planche à voile. Vous avez des petits gabarits qui sortent par un vent force 8. Donc là, vous pouvez, avec des bras de levier,
faire des manipulations comme ça. Chez vous, Philippe Starlingo, ça dure combien de temps une séance?
Alors, ça peut difficilement durer moins de 30 minutes parce que, comme l'a dit Marc tout à l'heure, il y a un interrogatoire qui est relativement long. Et puis après, le premier travail de l'ostéopathe, c'est d'essayer de comprendre et identifier si le patient ressort de sa compétence, s'il n'a pas une maladie grave qui doit faire qu'on l'oriente vers un médecin. Et ça, c'est un temps assez long. Donc, ouais. 30 minutes pour examiner et traiter un patient, c'est à peu près le minimum.
Sauf qu'il y a une mode de dire, je vais chez mon ostéopathe. Ceux qui vont toutes les semaines, vous ne recommencez pas la séance, vous pouvez peut-être directement aller vers l'essentiel. Jean-François Perrault.
Bah écoutez, là, on est peut-être à la limite de l'ostéopathie.
D'y aller toutes les semaines.
D'y aller toutes les semaines, je vois pas trop l'intérêt. C'est pas le principe de l'ostéopathie.
On y viendra tout à l'heure. Est-ce que la notion est une durée importante? Alors là, vous voyez, je suis vicieux parce que je me tourne vers le médecin. On sait que les médecins n'ont jamais une demi-heure à consacrer en règle générale à leurs patients. Donc comment vous faites?
En médecine ostéopathique, on consacre une demi-heure, voire trois quarts d'heure à nos patients.
Et vous ne croyez pas que c'est aussi ça une des raisons du succès actuel de l'ostéopathie, le temps que vous consacrez à vos patients par rapport au temps que malheureusement nos confrères généralistes n'ont plus le temps de consacrer à leurs patients?
Mais quand je dis que nous consacrons du temps, c'est du temps thérapeutique, donc c'est du temps efficace et
oui,
il est nécessaire.
Il
est nécessaire, mais nous le prenons.
On va voir tout à l'heure si vous perdez de l'argent pendant les gens aussi longtemps, je suppose que non. On va revenir sur les manipulations, parce que le terme de manipuler, il a plusieurs significations. Alors Philippe Starlingo, vous avez une bible des manipulations, vous avez un espèce de livre de référence où toutes les manipulations sont codifiées?
Alors il existe des documents qui référencent l'ensemble des outils des ostéopathes, parce qu'il y a les manipulations, il y a les mobilisations, il y a plein d'outils différents. Donc oui, il y a un document qui a été produit, et les manipulations sont des actes qui sont précis. C'est codifié, c'est précis.
Ben, Jean-François Perrault qui est là, a été écrit un bouquin, je vois, cahier d'ostéopathie, c'est pas pour vous qui nous écoutez, mais c'est pour montrer qu'il y a des concepts, plein de choses comme ça. Vous les avez apprises sur le tas, si j'ose dire, Marc Baillargeat, ou?
Oui, c'est une tradition de transmission, de compagnonnage, l'ostéopathie, beaucoup. Les livres sont un soutien très, très important, mais il faut appliquer, et le principe, c'est d'être à une table, d'avoir un cobaye, un patient, et puis un étudiant qui travaille sur le patient.
Vous avez une table spéciale?
Alors, on a une table qui a une spécificité, c'est qu'elle monte et qu'elle descend, surtout pour le confort de l'ostéopathe. C'est tout.
C'est tout. Vous avez des appareils pour manipuler? Vous avez des machins pour tirer? Ou c'est uniquement avec vos mains, Jean-François Ferraud?
Ah bien, justement, l'ostéopathe ne travaille qu'avec ses mains. C'est la différence, justement.
Vous n'avez pas un truc qui tire? Vous n'avez pas des treuils? Vous n'avez pas des trucs comme ça? Non, j'ai pas dit que c'est une séance de torture. Hein.
Non, mais vous parliez des chiropracteurs tout à l'heure.
Ah oui,
les chiropracteurs travaillent avec des outils, enfin certains outils, les ostéopathes uniquement avec leurs mains.
On va consacrer les six prochaines minutes à dire ce que vous manipulez, mais au départ, Marc Baillargeat, vous manipulez surtout les os?
Au départ, on manipulait surtout les articulations.
Ouais. Bon,
maintenant, on a étendu notre expertise à ce qu'on appelle les viscères, c'est-à-dire l'abdomen, le crâne et le thorax.
Alors donc, si je comprends bien, vous manipulez tout?
Nous manipulons tout.
Oui, mais c'est avec le temps que c'est arrivé. Il y a encore. Ma question, c'est l'ostéopathie est une matière vivante qui évolue et qui sera différente dans 20 ou 30 ans si on faisait la même émission?
Certainement, parce que nous sommes en pleine progression. Ce que nous faisions il y a 30 ans n'est plus ce que nous faisons maintenant et nous avons beaucoup évolué.
Europe 1, pourquoi docteur?
Jean-François Lemoine.
Nous sommes au Salon de l'agriculture avec Marc Baillargeat, médecin ostéopathe à Paris, Jean-François Perrault, kinésithérapeute à Neuilly, Philippe Starlingo, ostéopathe à Nantes. Nous sommes sur le stand des industries laitières, je le disais, au Salon de l'agriculture, ce qui explique un petit peu ce son très particulier. Alors, vous manipulez, très bien, j'ai compris, les articulations, on comprend. Les viscères, c'est-à-dire que vous manipulez ce qu'il y a à l'intérieur du ventre?
Oui, en fait, l'ostéopathie, les ostéopathes s'adressent à l'ensemble du corps humain, à l'ensemble des tissus qui constituent le corps humain, et avec une boîte à outils qui est assez vaste. Donc, effectivement,
qu'est-ce
il y a les viscères.
Une boîte à outils?
Bah, c'est un tas d'outils différents, de façons de manipuler différentes, des façons de mobiliser différentes.
Ah, mais tout ça au bout de vos mains. Quand vous dites que vous avez une boîte à outils, tout à l'heure, on m'a dit que vous n'utilisiez pas de trucs, vous n'arrivez pas avec la boîte à outils, c'est ma petite dame, je vais vous manipuler les viscères.
Les outils, c'est mes doigts, c'est ma sensation, ma perception.
Et c'est votre cerveau, toujours, on oublie toujours.
Absolument.
Lequel de vous trois va essayer de me convaincre qu'on fait de l'ostéopathie crânienne? C'est-à-dire, moi, j'ai appris pendant mes études, s'il y avait une chose qu'on pouvait pas bouger, c'était bien les os du crâne. Or, il y a une ostéopathie qui devient très à la mode, qui est l'ostéopathie crânienne. Qui en parle ? Docteur Bariage.
On ne peut pas faire bouger les os du crâne et on n'a jamais réussi à prouver quoi que ce soit sur l'ostéopathie crânienne. Par contre, ce que l'on sait, c'est qu'il y a des praticiens qui l'exercent et qui sont efficaces sur leurs patients.
C'est des gens de votre, votre compagnonnage, parce que c'est le terme que vous avez employé tout à l'heure.
Tout à fait.
Des ostéopathes. Alors, lequel de vous deux fait de l'ostéopathie crânienne ? Philippe Sterlingot et Jean-François Perrault.
Oui, en fait, moi je fais de l'ostéopathie crânienne. L'ostéopathie crânienne, c'est presque un abus de langage. Ce sont des techniques et des outils, comme j'évoquais à l'instant, qui s'adressent à une région particulière du corps, qui est le crâne, qui ne contient pas que des os, qui contient aussi des vaisseaux, des nerfs, des muscles, des enveloppes. Et effectivement, l'ostéopathie crânienne, elle produit des résultats. Ça, là-dessus, je crois qu'il y a un consensus.
Mais ça marche comment ? C'est-à-dire que vous avez un côté gourou. Je comprends pas, si vous voulez, ce qui se passe. Vous mettez vos mains autour du crâne, c'est ça ?
Oui, on met les mains sur le crâne et avec les mains, on mobilise des régions du crâne, on mobilise les muscles, on mobilise les enveloppes crâniennes, on mobilise un tas de choses.
Mais pas l'intérieur.
Ah non, pas l'intérieur. Non, je ne sais pas manipuler le cerveau encore.
Non, mais c'est parce que c'est ça qui est surprenant. Et c'est pour ça qu'en fin de compte, ça ne m'étonne pas que le docteur Marc Bayarja vous ait refilé la patate chaude, parce que du côté des médecins, l'ostéopathie crânienne, c'est quelque chose qui les surprend un peu. Vous avez, d'ailleurs, il a dit « j'en fais pas ». Notre kiné, là, tiens, Jean-François Perrault.
Écoutez, quand on parle d'ostéopathie crânienne, il faut se rappeler que toutes les chaînes musculaires viennent s'attacher au niveau du crâne. Donc on peut considérer qu'en appliquant les mains sur le crâne, en faisant certaines pressions, on va avoir un relâchement comme ça au niveau de ces chaînes musculaires.
Ouais, vous manipulez autant le cou que le crâne.
Oui. Mais en allant sur le crâne, effectivement, vous allez avoir des relations tissulaires.
Est-ce qu'on peut dire que le fait d'être allongé et d'avoir quelqu'un qui vous tient le crâne, qui vous fait relaxer ça, c'est déjà ça l'effet thérapeutique de l'ostéopathie crânienne.
Boris Dolto disait que dès qu'on pose la main sur un patient, c'est jamais anodin, on obtient déjà un relâchement.
Vous voyez qu'il y a des références à la psychiatrie, hein, on va poser la question tout à l'heure, mais c'est vrai qu'il y a une chose certaine, c'est que les gens sont ravis de ces séances d'ostéopathie. Vous savez, j'ai fait cette émission sur l'homéopathie, auquel je ne croyais pas spécialement, mais c'est vrai que quand on voit la liste des gens qui sont soulagés, et en particulier, on verra tout à l'heure les animaux, c'est quand même pas des gens qui viennent sur le divan du psy. Donc, je vous rappelle que cette émission est extrêmement consensuelle sur l'ostéopathie. On n'est pas en train de faire un procès à charge, on est là pour comprendre. En revanche, il y a une chose sur laquelle j'aimerais bien qu'on soit clair. Quels sont, Marc Bariarja, les risques de l'ostéopathie ?
Les risques de l'ostéopathie, essentiellement, c'est ceux de l'absence de diagnostic. C'est-à-dire qu'avant de pratiquer en ostéopathie, il faut faire un diagnostic correct. Pour les médecins, il s'agit de faire un diagnostic médical. Pour ceux qui ne sont pas médecins, il s'agit de faire un diagnostic d'exclusion, un diagnostic...
C'est-à-dire de ne pas passer à côté de quelque chose où
l'ostéopathie
ne ferait rien. D'accord. Moi, je vous parlerai d'une expérience tout à l'heure, mais on va continuer avec vous, Philippe Sterlingot. Est-ce que vous manipulez les femmes enceintes et les nourrissons, par exemple ?
Ah oui, bien sûr. Et les femmes enceintes, heureusement qu'elles ont l'ostéopathie, parce que rappelons-nous qu'elles n'ont pas le droit de prendre des médicaments contre la douleur, et que quand elles souffrent durant leur grossesse, elles sont bien heureuses de venir chez l'ostéopathe qui, avec infiniment de douceur, parce que c'est une personne particulière.
Vous n'avez jamais provoqué d'accouchement dans votre cabinet ?
Eh bien, non.
Bon.
Et je ne crois pas qu'il y ait vraiment de risque à pratiquer l'ostéopathie chez la femme enceinte.
Il n'y a pas de contre-indication. Et chez le nourrisson, pourquoi j'ai pris la femme enceinte et le nourrisson ? Parce que généralement, on ne peut pas prescrire de médicaments et on est très, très désarmé face à ça. Vous, pareil, vous n'avez pas de... Monsieur Perrault.
Non, j'ai jamais fait accoucher de femme enceinte dans mon cabinet. Et quant au nourrisson, alors il y a une réglementation quand même par les décrets qui n'autorise le travail sur le nourrisson de moins de 6 mois que sur prescription médicale. Mais c'est très efficace.
L'accident vasculaire cérébral, on a dit que ça allait provoquer parfois les manipulations.
Dans les manipulations cervicales, il y a des accidents. Mais c'est 1 sur 1,5 million manipulations.
Mais écoutez, oui, monsieur Sterlingot, très court.
Juste un mot sur le nourrisson. En fait, le décret prévoit que certaines techniques ostéopathiques ne sont pas autorisées chez le nourrisson. Mais par contre, on peut très bien traiter le nourrisson sans prescription médicale.
A-t-on des preuves d'efficacité ? On va essayer de voir et puis comprendre pour qui et s'adresse l'ostéopathie.
Europe 1.
Pourquoi docteur ?
Pourquoi docteur ? Jean-François Lemoine.
When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet,
Will your mouth still remember the taste of my love? Will your eyes still smile from your cheeks?
Europe 1, pourquoi docteur?
Jean-François Lemoine.
Nous sommes au Salon de l'agriculture sur le stand des industries laitières. Et les applaudissements vous montrent que notre émission sur l'ostéopathie, eh bien, fait beaucoup, beaucoup de satisfaits. Nos invités, le docteur Marc Bayarja, qui est médecin ostéopathe à Neuilly. Jean-François Perrault, kinésithérapeute à Neuilly également. Vous êtes à Paris, monsieur. Excusez-moi, monsieur Bayarja. Et Philippe Sterlingo, je suis provincial, comme monsieur Sterlingo, il est à Nantes. Alors, je voulais vous dire... Voilà, on applaudit, oui, oui. Merci. On a l'impression qu'il n'y a pas de preuve de l'efficacité de l'ostéopathie. On ne voit pas, je suis l'actualité mondiale, je vois rarement des grandes études disant, ben voilà, il n'y a pas de problème. On avait d'un côté des gens à qui on a fait des manipulations, là rien, et ceux qu'on a manipulés vont beaucoup mieux. Est-ce que vous pouvez me détromper?
Je pense que je peux vous détromper parce qu'il y a effectivement beaucoup de preuves de l'efficacité de l'ostéopathie, en particulier dans les lombalgies, pour prendre un exemple. Tous les indicateurs montrent que l'ostéopathie est supérieure à la médecine allopathique.
Dans tous ces cas-là.
Dans tous ces cas-là, le niveau d'efficacité est supérieur.
Alors, d'abord, qu'est-ce qui motive les gens de pousser la porte de vos cabinets, Philippe Sterlingo, c'est l'échec des autres médecines?
Je crois que c'est ce qui a nourri l'ostéopathie au début de son existence en France, mais c'est plus le cas aujourd'hui. Il faut savoir que 80% des patients qui viennent nous voir le viennent de leur propre chef, c'est-à-dire pas sur prescription ou indication d'un médecin ou d'un professionnel. Et donc non, je crois qu'aujourd'hui l'ostéopathie elle a sa place dans le paysage de la santé en France et les gens sont habitués à avoir l'ostéopathie.
Alors le bouche à oreille, c'est quand même ce qui marche le mieux généralement, non? Pas ça.
Oui, tout à fait, mais on ne va pas passer devant une plaque d'ostéopathe et dire tiens, je vais voir un ostéopathe.
On prendrait peut-être même un risque, non?
Peut-être.
Ouais. Mais alors dites-moi, pourquoi Marc Bayarja, parce qu'il y a quand même 240 000 médecins dans ce pays, pourquoi en fait un très petit nombre font une prescription d'ostéopathie?
Le médecin est responsable de ce qu'il fait, donc quand il prend une prescription d'ostéopathie, il doit être certain que l'ostéopathe qui est derrière va faire les choses comme il pense qu'elles doivent être faites.
Et là, vous bottez en touche. Vous dites bon, ils vont pas vers un ostéopathe parce qu'ils sont pas sûrs d'aller vers un ostéopathe. Déjà, ils pourraient les envoyer chez vous. Au moins, si c'est un truc confraternel, ça. Mais moi, je connais pas un ami médecin généraliste qui dit tiens, j'ai fait une prescription d'ostéopathie.
Il y en a de nombreux, de plus en plus, qui font des prescriptions d'ostéopathie, mais ils ont été très longtemps très prudents.
On est d'accord. Philippe Sterlingo, des gens arrivent chez vous avec c'est un médecin de Nantes qui vous adresse
Non, très peu. Mais je crois qu'il faut faire un peu d'histoire. Jusqu'en 2002, les ostéopathes non médecins pratiquaient l'ostéopathie illégalement. Et en fait, la profession, elle n'est réglementée que depuis quelques années. Donc elle est en train de faire petit à petit son trou dans le monde de la santé en France. Et ce qui fait aussi que les médecins, au-delà du problème de responsabilité qu'évoquait Marc à juste titre, ce qui fait que les médecins n'en voient pas chez l'ostéopathe, c'est aussi parce qu'ils ne savent pas ce que c'est que l'ostéopathie.
Je vous le confirme. Je vous le confirme. Dans nos études de médecine, on n'en parle jamais. Et c'est vrai qu'il y a cette espèce de côté, on sait tout et les autres ne savent rien. Vous avez compris que Philippe Sterlingo, si on avait fait l'émission en 2001, il aurait eu un masque et on aurait trafiqué sa voix. C'est quand même, ça vous fait du bien d'être aujourd'hui.
Absolument.
Bon, on va revenir sur quoi ça marche. On a compris que tout ce qui est rhumatisme, problèmes, torticolis, tout ça, ça fonctionne. Quand vous dites les viscères, c'est-à-dire le ventre, ça marche sur quoi l'ostéopathie?
À tous les troubles fonctionnels abdominaux, c'est-à-dire toutes les ce qu'on appelle les gaz, les douleurs abdominales.
On va être clair. Les troubles fonctionnels intestinaux, ça veut dire on a des gaz, on est constipé, on a la diarrhée, c'est ça.
Exactement.
Là-dessus, ça fonctionne.
Exactement. Ça peut.
Est-ce que ça marche sur le mal de tête et la migraine? Parce qu'il y a quand même beaucoup de gens qui sont là-dessus.
Il faut déjà faire un diagnostic de la cause de ce mal de tête ou de cette migraine. Mais à partir du moment où on a un diagnostic précis, il y a des causes cervicales, il y a des causes ostéopathiques aux douleurs migraineuses.
Alors, des choses plus surprenantes pour un médecin, Philippe Sterlingo et Jean-François Perrault, c'est les infections comme les otites ou les sinusites, les insomnies. Ça paraît... On se demande comment ça fonctionne.
Ben justement, on revient là sur la question de l'ostéopathie qui s'adresse sur le crâne. Les otites, par exemple, il y a une étude scientifique qui date de 2002 ou 2004, je ne me souviens plus, qui démontre que l'ostéopathie a des résultats sous les otites moyennes de l'enfant. Donc oui.
Otite sinusite, parce que c'est quand même des vrais problèmes.
Otite sinusite, vas-y.
Tout à fait, parce que en fait là on est sur du tissu inflammatoire, donc on peut très bien arriver à réguler ça. Et je dirais que l'ostéopathie s'adresse au système neurovégétatif. On n'en a pas parlé beaucoup.
Qu'est-ce que vous appelez le système neurovégétatif?
Le système neurovégétatif, c'est ce qu'on appelle le système autonome du corps, qui contrôle les fonctions, par exemple, qui régule la température du corps, qui régule le rythme cardiaque. Et l'ostéopathie joue beaucoup sur ce système-là.
Lequel de vous va aller nous expliquer pourquoi on le fait dans la dyslexie, dans les problèmes de mémoire et dans les problèmes de concentration? Là, on rentre dans un autre domaine. Où est-ce que Marc Bayerja?
En ce qui concerne la dyslexie, il y a des posturologues qui travaillent
dyslexie,
beaucoup.
Dyslexie, c'est les gens qui ont des problèmes pour parler. Hein.
Il y a des posturologues qui travaillent beaucoup sur ce sujet, avec des dentistes, des ostéopathes, des médecins. Mais c'est un sujet extrêmement complexe et c'est pas de l'ostéopathie de premier venant. Quoi.
Philippe Sarlingo.
Oui, pour faire très court, en fait, je crois qu'aujourd'hui, la recherche scientifique dans les sciences du cerveau, de comment marche le cerveau, progresse beaucoup et nous permet de comprendre beaucoup de choses sur lesquelles on avait des résultats jusqu'à maintenant sans toujours bien comprendre pourquoi.
Nous parlons d'ostéopathie, nous sommes au salon de l'agriculture et j'aimerais bien comprendre un petit peu la part de, allez, on va dire, du cerveau, du côté psychiatre, il y a dans votre art.
Europe 1. Pourquoi docteur ? Jean-François Lemoine.
C'est le salon de l'agriculture, mais c'est aussi Pourquoi docteur ? Vous entendez des applaudissements. Nous sommes sur le stand des industries laitières. Docteur Marc Bayerja, qui est médecin ostéopathe à Paris, Jean-François Perrault, kinésithérapeute à Neuilly, Philippe Sterlingo, ostéopathe à Nantes. On les applaudit. Ça a baissé encore les applaudissements, là. Ah bon ? Voilà. Alors, on va essayer de comprendre comment on choisit un ostéopathe, mais avant, je vais vous dire qu'à Europe 1, quand je me promène, surtout le vendredi soir dans la station, j'entends beaucoup « Oh, je suis crevé, j'ai une semaine dure, je vais aller voir mon ostéopathe ». Vous pouvez pas nier qu'il y a quand même un côté de... On va un peu se détendre chez l'ostéopathe qui va vous faire des trucs sympas, qui va vous faire passer... Philippe Sarlingo, c'est restrictif ce que je suis en train de dire ?
Non, c'est une réalité, c'est-à-dire que...
Ou c'est les bobos ?
Les bobos, je sais pas, mais en tous les cas, le stress aujourd'hui, on vit dans un monde très stressant, génère des conséquences sur tout le système musculaire. Dès qu'on est stressé, on se contracte musculairement. Et donc, forcément, on a mal sur différentes zones. L'ostéopathe, il sait régler ça de manière tout à fait satisfaisante. Et après, sur l'effet placebo, puisque c'est là-dessus que vous allez venir.
Alors, l'effet placebo, c'est qu'on donne quelque chose, on sait que ça marche pas, mais comme il y a le fait de le donner, ben, ça fait quelque chose.
Voilà. Bien sûr, il existe en ostéopathie, mais
comme
il existe
partout.
Dans toutes les médecines, dans toutes les prises en charge médicales. Donc, là-dessus, il n'y a pas de tabou.
Alors, il y a une chose quand même, on parle de l'action un peu détendante. Marc Bayerja, vous savez que la médecine a un énorme problème avec la dépression nerveuse. Mm-hmm. Alors, on ne dit plus dépression nerveuse, excusez-moi, là, tous les psychiatres vont me tomber dessus. La dépression. Est-ce que l'ostéopathie a son mot à dire sur la dépression ?
D'une façon directe, certainement pas. Mais tout à l'heure, on parlait de médecine adjuvante. En fait, c'est une médecine complémentaire, l'ostéopathie. Donc, redonner de la mobilité au corps d'un individu qui est dépressif, ça l'améliore.
Donc, si je comprends bien, tous les gens qui ont aujourd'hui une maladie chronique grave, qui est traitée très bien par la médecine traditionnelle que l'on a appris, vous et moi, bénéficieraient de temps en temps de pousser la porte d'un ostéopathe. Moi, c'est ce que je retiens de ce que vous êtes en train de me dire.
Tout à fait.
Même un cancer, même des choses comme ça.
Tout à fait, mais non pas parce que nous allons prendre en charge directement le cancer, mais parce que nous allons prendre en charge l'individu et que nous allons lui redonner de la mobilité là où il en a perdu.
Philippe Sterlingo, j'ai fait de vous l'homme des chiffres. Il y a combien d'ostéopathes en France ?
22 500 à peu près.
22 500. Combien de médecins, Marc Bayerja ?
1600.
Vous êtes en nombre très, 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 très... Combien de kinés, M. Perrault, puisque vous êtes kiné ?
Kiné ostéopathe ?
Oui, ostéopathe, oui.
La moitié.
8 000 pour aider Jean-François.
Voilà. Donc, voilà, je reviens sur l'homme des chiffres, Philippe Sarlingo. Et donc, le reste, c'est des gens qui n'ont fait ni médecine, ni kiné. Et je comprends bien.
Il y a à peu près 13 000 ostéopathes exclusifs, c'est-à-dire des ostéopathes qui sont ni médecins, ni kinés, ni sages-femmes, etc.
Alors j'ai fait un petit sondage avant de commencer l'émission auprès de nos auditeurs, et en fin de compte, un tout petit nombre avait poussé la porte d'un ostéopathe. Or, on ne semble pas être représentatif, ils ne sont pas représentatifs, puisque le chiffre exact est de, Philippe Sterlingo ?
Aujourd'hui, 48% des Français ont un jour vu un ostéopathe, et 24% dans l'année précédant le sondage.
Donc on va dire 1 sur 2 a vu un ostéopathe, et 1 sur 4 y va régulièrement. Dites-moi, c'est pas obligatoire quand même d'avoir fait un peu de médecine. Vous n'avez pas envie, Philippe Sterlingo, vous êtes un très bon ostéopathe, je le sais. Mais ça vous dites pas, tiens, je ferais bien un petit peu d'études de médecine, un peu, ou pas ? Ça sert à rien.
Alors, je dirais pas que j'ai fait une formation de médecine, mais toute bonne formation à l'ostéopathie comporte tout un aspect sémiologique, c'est-à-dire l'étude des signes cliniques qui permettra à l'ostéopathe de dire « Oui, ce patient, je le prends en charge, ou bien non, c'est pas pour moi. »
Comme les études de kiné, je suppose. Hein. Vous avez la même chose.
On nous forme à faire un diagnostic différentiel, justement.
Disons, il y a quelqu'un qui nous écoute, qui vient d'avoir son bac, qui veut devenir ostéopathe. Il fait quoi ? Il fait cette année de médecine, puis après il devient ostéopathe, ou il va à la case de Sterlingo par l'ostéopathie pure et dure tout de suite?
Alors aujourd'hui, quand on veut devenir ostéopathe, il faut démarrer une formation dans une école privée qui, à l'issue de 5 ans d'études, en à peu près 5000 heures de formation, vous donnera le droit d'exercer l'ostéopathie.
Et ces écoles privées, elles naissent comme ça, à la fleur du temps ou...
Alors elles existent en réalité aujourd'hui en France. Il y a... trop d'écoles, il y a à peu près une cinquantaine d'écoles, soit qui ne forment que des bacheliers, soit qui forment des kinés, des médecins, sages-femmes et autres infirmiers. Et la réforme dont parlait Marc tout à l'heure en début d'émission prévoit de faire une sélection drastique sur la qualité de ces écoles et d'en diminuer le nombre.
Combien d'années d'études pour vous entre le moment où vous avez décidé de devenir ostéopathe et le moment où vous avez eu votre premier patient ?
Eh bien moi, ça a fait 9.
9 années.
Oui.
Pour vous, vous êtes kiné, je le rappelle, Jean-François.
Également, donc ça fait
9 8, années en plus de vos études de kiné.
Études de kiné et ostéopathie. Voilà.
C'est combien l'étude de kiné, grosso modo ?
Ça fait 3 ans, maintenant ça va passer 3 ans. À 4 ans.
Donc vous avez mis 5 ans derrière, 6 ans derrière pour devenir ostéopathe. Et je veux dire, Marc Bayarja, je ne termine pas vous, vous êtes médecin, vous avez fait théoriquement 8-9 années d'études. Vous en rajoutez combien pour devenir ostéopathe ?
Avec les nouveaux décrets, nous en rajouterons 3.
Mais bon, on ne pourrait pas commencer plus tôt parce que c'est quand même. C'est quand même un peu bizarre de dire qu'on a commencé, on au bout de 9 ans, on décide de faire autre chose.
Il n'est pas obligatoire de commencer quand on a fini ses études de médecine définitivement, enfin quand on est diplômé et qu'on est prêt à faire sa médecine. On peut commencer avant la fin des études de médecine.
Dites-moi, on est consensuel, là, tout se passe bien. Quelles sont les relations entre les ostéopathes, nos médecins et médecins ? Philippe Sterlingo, très court, avant qu'on...
Elles sont bonnes. Enfin, Marc Bayarja, ça fait 13 ans qu'on se connaît et à chaque
fois
on collabore.
Elles ont toujours été bonnes quand même.
Ça dépend de quelle catégorie de médecin on parle.
Oui, mais d'accord.
Marc
mais
est là, médecin ostéopathe.
Aujourd'hui, on peut dire que les ostéopathes ne vont pas manifester autrement qu'unis, quoi. On est d'accord ?
Bon, oui.
Ça vous n'avez pas l'air enthousiaste.
Si, il y a de bonnes relations. Après, la médecine progressivement apprend à découvrir ce qu'est l'ostéopathie et devient de plus en plus tolérante vis-à-vis de l'ostéopathe.
Bon, je suppose que vous posez tous la question de savoir combien ça coûte. Eh bien, c'est ce qu'on va voir dans un instant.
Europe 1, pourquoi docteur ?
Jean-François Lemoine.
Nous sommes au Salon de l'agriculture avec les docteurs Marc Bayarja, ostéopathe à Paris, Jean-François Perrault, kinésithérapeute à Neuilly, Philippe Sterlingo, ostéopathe à Nantes. Alors, vous avez quelqu'un qui arrive chez vous, il sait qu'il va passer globalement entre 30 et 45 minutes. Quelle est l'addition ? Alors on va voir, parce que si l'addition elle est différente entre les médecins, les non-médecins, les kinés. On commence chez vous, Philippe Sterlingo.
La moyenne nationale, puisque j'aime bien les chiffres, elle est de 52 euros.
Ouais.
Sachant qu'en région parisienne et sur les grandes métropoles, c'est toujours 10-15 euros de plus.
Bon, alors vous êtes en train de dire que Marc Bayarja et Jean-François Perrault sont plus près de 70 que de 50.
Il y a des chances.
Monsieur Bayarja, vous êtes médecin, donc vous prenez combien, grosso modo ? Je parle des médecins, en règle générale, médecins ostéopathes.
Moi, je dirais que chez les médecins, on va de 70 à 120 euros en... Voilà, 120 euros. Alors 120 euros, ça peut être en région parisienne, mais la moyenne se situe plutôt, même dans la région parisienne, vers les 90, 100 euros.
Vous êtes plus cher, mais vous, il y a une différence, c'est qu'il y a un petit bout de remboursement, je suppose.
Effectivement, il y a un bout de remboursement, mais seulement sur la consultation diagnostique, ouais. Puisque le médecin, déontologiquement, doit faire un diagnostic médical.
D'accord, mais après, quand on revient vous voir, il n'y a pas de remboursement ?
Si c'est la même cause, il n'y aura pas de remboursement.
Oui, alors ça, je peux vous dire qu'à mon avis, bon, c'est ce que vous dites, mais à mon avis, vous êtes sûr que c'est vraiment ce qui est...
De plus en plus, de moins en moins, les médecins transgressent cette règle. Ils font... une feuille de soins pour l'acte médical et le diagnostic, et ils font une facture pour l'acte ostéopathique.
Alors, la bagarre des médecins et non-médecins sur les prix n'a pas l'air d'avoir lieu, Philippe Sterlingo, ou vous, François Ferreau.
Non, en fait, il n'y a pas vraiment une bagarre. Et puis, n'oublions pas, comme l'a dit Marc, que les médecins aujourd'hui sont 1500. Donc, l'enjeu économique, il n'est pas massif.
Oui, parce que si on se dit qu'un Français sur deux décide brutalement... vous êtes 22 000 ostéopathes
en tout.
Je ne vais pas faire le calcul, mais si 30 millions de Français décident de pousser votre porte, c'est pas possible.
ça va être compliqué.
Donc, est-ce qu'aujourd'hui, quand on va voir un ostéopathe, Capillon-sur-Rue, dont tout le monde sait qu'il est compétent, il y a un délai d'attente qui est digne de celui des ophtalmologistes dans ce pays ou pas ? Vous, c'est pas à combien ? Demain, je veux aller chez vous, combien de temps de délai ?
Alors pour venir chez moi, c'est 24 heures pour une raison simple, c'est que je gère mon planning de manière à ce qu'il y ait toujours des places de libre.
Bon, ben, vous allez voir lundi. Monsieur Perrault.
Pour moi, il faut un mois et demi.
Un mois et demi. Et Marc Bayerja.
Moi, je gère comme Philippe, c'est-à-dire que j'ai toujours des places de libre.
Bon, Monsieur Perrault, ils vont moins téléphoner chez vous, hein, je vous préviens. Mais vous auriez dû dire non, c'est de la place.
Non, mais en cas d'urgence, on peut toujours trouver un petit créneau.
Le remboursement, on peut l'imaginer à terme ou pas du tout ? C'est un combat que vous n'avez même pas. On a compris que les médecins peuvent rembourser une partie, mais vous, les ostéopathes non médecins ou même kinésithérapeutes, vous ne battez pas là-dessus ?
Bah, il y a un remboursement assuré par les mutuelles. Aujourd'hui, 60% de nos patients ont un remboursement partiel par leur mutuelle. Et ce nombre augmente chaque année puisque les mutuelles aujourd'hui sont notre financeur, si je peux dire.
Donc vous dites que c'est quand même important parce qu'aujourd'hui, dans ce monde où de plus en plus de gens ont une mutuelle, il y a certaines mutuelles qui remboursent l'ostéopathie.
Ah oui, il y a une majorité. C'est une majorité de mutuelles.
Jean-François Perrault.
Je dirais, moi je préférais le terme prise en charge, parce qu'on n'est pas dans le remboursement sécurité sociale. Donc il y a des mutuelles qui prennent en charge un certain nombre de séances avec un plafond.
Et ils prennent, alors justement, j'ai oublié de vous poser cette question-là. Quand on rentre chez un ostéopathe qui va vous prendre 35-40 minutes, on rentre pour combien de séances, en règle générale ?
Ça dépend vraiment des praticiens, mais pour ce qui me concerne, moi ça sera entre une et trois séances, et dans 90% des cas, c'est une séance.
Est-ce qu'on doit voir Philippe Sterlingo quand on sort chez l'ostéopathe ? Est-ce qu'on doit sentir, puisque une ou trois séances, c'est pas beaucoup, alors que des fois les traitements partent pour 6-8 mois, est-ce qu'on doit sentir quelque chose de positif très vite ?
Alors en fait, pour revenir juste en amont, ça dépend vraiment de l'état de santé du patient. Chez des patients qui ont des grosses affections chroniques, on peut partir sur des traitements plus longs.
Oui, mais ils sont pris en charge par d'autres disciplines.
Pas toujours. Ah oui. Effectivement, aujourd'hui, dans 90% des cas, c'est moins de 2 consultations. Et puis, quand c'est des pathologies, enfin des troubles très très chroniques, ça peut être plus long.
On n'a pas parlé de l'étranger. Vous nous avez expliqué que l'ostéopathie était née aux États-Unis. Est-ce que, par exemple, aux États-Unis, et je sais parce que j'y vais très souvent, l'ostéopathe est quand même beaucoup plus reconnu, beaucoup plus présent dans la vie des Américains que des Français. Marc Bayerja.
Historiquement, c'est le premier pays où l'ostéopathie s'est développée. Et après la Deuxième Guerre mondiale, les ostéopathes sont devenus médecins. Donc, il y a une formation médicale pour les ostéopathes. Ils sont médecins. Il y a les médecins...
Oui, mais là, vous relancez la guerre, là.
Pas du tout. C'est comme ça que les États-Unis ont traité les choses. C'est le seul pays où ça existe.
La Suisse, par exemple, on dit qu'il y a des écoles formidables en Suisse.
C'est vrai. Et les Suisses ont reconnu leurs ostéopathes avec un cursus bien défini.
Philippe Sterlingo, en fin de compte, qui ressort de tout ça, c'est la reconnaissance qui vous manque vraiment, vraiment, vraiment.
On l'a par nos patients et depuis bien longtemps. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'on a une reconnaissance aujourd'hui des pouvoirs publics.
Allez, je vais vous faire très court parce que je sais que vous pourriez en parler 2 heures. Et notre ministre de la Santé, comment elle perçoit l'ostéopathie ? Comment vous entendez avec elle ?
Elle la perçoit bien et grâce à elle, on vient de réformer la formation des ostéopathes de manière extrêmement qualitative.
Et je vous disais qu'on était dans le meilleur des mondes. Eh bien, écoutez, tout va bien, il n'y a pas de problème et ça va nous permettre d'aller conclure. Nous sommes au Salon de l'agriculture, on parle de l'ostéopathie et vous allez voir que ce n'est pas anodin.
Europe 1. Pourquoi, docteur ?
Jean-François Lemoine.
Les grands succès de l'ostéopathie. Alors, on va aller d'abord... Oh oui, j'oubliais, nous sommes au Salon de l'agriculture. Et c'est pour ça que le son est un peu particulier, qu'il y a des applaudissements. Il y a quelqu'un qui, un jour, j'ai eu la chance de l'interviewer, qui s'appelle Zidane. Alors là, Zidane, on rentre quand même dans du lourd. Hein. Zidane qui nous a ramené la Coupe du Monde et qui ne jure que par son ostéopathe. En disant, à l'époque, quand il arrivait dans un club, il amenait son ostéopathe. Je crois que vous le connaissez tous, l'ostéopathe. C'est pas Monsieur Boissel ou quelque chose ?
Boixel.
Boixel, hein, qui donc suivait tout. Les joueurs ne jurent que par des ostéopathes. Est-ce que c'est un côté gourou ou est-ce qu'il y a une vraie, pour un sportif de haut niveau, une vraie importance à avoir un ostéopathe ? On va parler à notre kiné parce que c'est souvent le kiné qui fait ça.
Écoutez, dans le domaine sportif.
Jean-François Perrault, hein.
Merci. Dans le domaine sportif, l'ostéopathe a toute justement son application, puisqu'on va travailler essentiellement sur la biomécanique, Oui. Donc la gestuelle du sportif, l'optimisation du geste.
Mais là, vous êtes très dans le geste. On sait que les adducteurs, on sait que les articulations souffrent chez le sportif de haut niveau. Vous êtes très là. Vous n'êtes pas en train de toucher le crâne pour dire tu vas marquer 5 buts demain.
Là, on est vraiment dans la biomécanique. Les sportifs aiment plutôt qu'on s'occupe d'eux au niveau mécanique plutôt qu'au niveau crânien, parce que effectivement, pour pouvoir faire du sport, il faut pouvoir bouger.
Alors, oui, Philippe Sterlingot.
Oui, je crois que les sportifs, en fait, faut comprendre que ce sont des gens qui soumettent leur organisme à de très, très grosses contraintes et ils ont besoin régulièrement de se faire traiter parce qu'ils se dérèglent tout le temps, en fait. C'est un peu comme une Ferrari.
Oui. Alors, vous pourriez croire, à la fin de cette émission, que j'ai beaucoup, peut-être, ironisé sur le côté psy de l'ostéopathie. C'est pas du tout mon discours. Je vous dirai dans quelques instants ce que j'en pense vraiment au fond de moi-même, en conclusion de cette émission, mais... On est au salon de l'agriculture et je voulais avoir un ostéopathe qui s'occupe des animaux. Eh oui, parce que figurez-vous, et ils bossent là, c'est la plus grande ferme de France, donc les ostéopathes s'occupent des animaux, bossent. Alors Marc Bayarja, dites-moi, là on peut pas dire que c'est la psy. Quand on va faire une séance d'ostéopathie à une vache, elle l'a pas demandé et il y a une raison.
Tout à fait, parce que c'est efficace. Alors moi, je connais bien l'ostéopathie équine, l'ostéopathie des chevaux. Et un des premiers ostéopathes équins qui est exercé, qui est Dominique Gignot, était venu à Paris 13, à l'université, chez les médecins, pour apprendre l'ostéopathie humaine, et l'a appliqué aux chevaux. Ça a démarré un peu comme ça.
Alors dites-moi, tout à l'heure, Jean-François Perrault disait, c'est comme la planche à voile, il y a des tout petits qui sortent avec des grosses planches par force 12, mais là, quand même manipuler un cheval, on fait quoi?
L'ostéopathe équin utilise le mouvement du cheval pour le manipuler.
C'est-à-dire qu'il fait
le faire, positionne, oui.
Il fait faire des mouvements. C'est un peu ce que d'ailleurs, si vous reprenez l'histoire des manipulations avec le professeur Maigne, il faisait un peu ça, parce qu'il faisait faire des mouvements pour contrebalancer un problème. Donc c'est un peu ça ce que fait le...
Tout à fait, mais il manipule réellement l'ostéopathe équin. Alors il l'applique aussi à la vache et aux animaux de compagnie.
Alors on peut faire... Oh, ça c'est très chic, on peut aller faire de l'ostéopathie à son chien.
Tout à fait.
Avec de bons résultats. Il y a une dame au premier rang qui me fait oui d'un air très sérieux, parce que j'ai l'impression que son chien a de la chance, cette dame-là. Donc on est là dans vraiment une preuve évidente que l'ostéopathie a un vrai rôle. Quand on sait le prix des chevaux, on ne leur fait pas faire des séances d'ostéopathie pour rien. Vous êtes d'accord?
Oui, complètement. Et puis, vous savez, je crois que si 50% des Français viennent nous voir depuis tant d'années, c'est pas uniquement parce qu'ils veulent faire une psychothérapie, c'est qu'il y a vraiment autre chose derrière.
Bon, dites-moi, chers amis, je pense que on peut conclure, et vous allez me dire si vous êtes d'accord, que ça serait bête de se priver du secours d'un ostéopathe alors que vous n'êtes pas là pour faire souffrir les gens, mais pour leur apporter un énorme réconfort dans plein de pathologies. Je vais vous dire, où on ne doit pas faire de l'ostéopathie? Est-ce qu'il y a des... Philippe Sterlingot, de façon très courte, qui vous allez refuser?
On va refuser des gens chez qui un diagnostic médical n'a pas été posé si on suspecte une maladie grave, lourde. Après, on peut les reprendre dès que le diagnostic est posé.
Vous, Monsieur Perrault?
Oui, c'est la même chose, puisque il ne s'agit pas de faire d'impair.
Oui.
Donc on est là pour améliorer la santé et il ne faut pas passer à côté de quelque chose de grave.
On a oublié qu'il y a un instrument qui s'appelle la radio, qui est quand même un instrument extrêmement important. Vous l'exigez avant une séance d'ostéopathie ou pas? C'est pas indispensable.
Tout dépend de l'endroit où on se trouve.
Pour tout ce qui est articulaire.
Mais pour ce qui est cervical, il est préférable de faire des radios. Pour le reste des articulations, on peut s'en passer.
Merci messieurs. Je suppose que nos auditeurs comme moi ont beaucoup appris aujourd'hui. Je suis certain que vous aurez des demandes encore beaucoup plus nombreuses dans les semaines qui viennent.
Tous les dimanches, 13h-14h sur Europe 1.
Pourquoi docteur?
Jean-François Lemoine.
Merci au docteur Marc Bayarja, médecin ostéopathe à Paris. Merci à Jean-François Perrault, kinésithérapeute ostéopathe à Neuilly. Jean-Philippe Sterlingot, Élie ostéopathe à Nantes. On remercie aussi le centre des industries laitières qui nous ont accueillis encore cette année. Et comme je vous le disais au début de cette émission, on va oublier un peu la médecine et on va aller se faire plaisir dans ce formidable salon, emblème vivant de la richesse et de la beauté de notre pays. Pour nous écrire, rue François 1er dans le 8e arrondissement à Paris. Pour écouter cette émission ou celle que vous aurez ratée, le site europe1.fr. On remercie Alexandra Dumont, notre assistante. Alors, il y a plein d'ingénieurs du son, de techniciens aujourd'hui. Je ne vais pas tous les citer, mais on va les applaudir. Et Corinne Reich, notre réalisatrice. On retrouve Loïc Vimard, bien évidemment, qui lui est en train de veiller du côté de la rue François 1er. On se retrouve dimanche prochain dans notre studio habituel. En attendant, portez-vous bien.